VOA Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 14h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. On commence par les élections au Togo. L'opposant Agbeyome Kodjo, arrivé en seconde position à la présidentielle, a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Il dénonce de faux résultats et une mascarade électorale concernant ce scrutin remporté par le président sortant Fornia Singbe, selon les chiffres officiels. Plus de détails avec Abdourahmane Dia.
L'opposant affirme avoir déposé mardi soir un recours devant la Cour constitutionnelle et dit attendre que la Cour récuse les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Cet ancien premier ministre a obtenu 18,37% des voix contre 72,36% pour le président sortant selon les résultats préliminaires. Le candidat du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement s'est autoproclamé président quelques heures avant la proclamation des résultats de la CENI, dénonçant de graves irrégularités. Depuis, il a appelé plusieurs fois les Togolais à se mobiliser pour manifester leur désapprobation face à ce qu'il appelle une mascarade électorale et à défendre leur suffrage. Mais son appel n'a pas eu d'écho et les Togolais ont continué à vaquer à leurs occupations. Les observateurs de la CDAO ont exhorté les candidats à respecter les résultats proclamés par les institutions et à recourir si besoin aux voies légales.
Élection en Guinée-Bissau, Oumaru Sissoko Embalo, l'un des deux candidats au second tour de la présidentielle du 29 décembre, compte se faire investir ce jeudi au poste de chef de l'État, malgré l'imbroglio persistant sur l'issue du scrutin. C'est du moins ce que l'opposant a déclaré hier. Monsieur Embalo, issu de l'opposition, donc, a été donné vainqueur par la commission électorale avec 53,55% des voix. Mais son rival, Domingos Simões Pereira, continue de contester sa victoire. Monsieur Pereira appartient au PAIGC, qui domine la vie politique du pays depuis son indépendance en 1974. Relations France-Mali. L'ambassadeur du Mali en France a accusé hier les soldats de la Légion étrangère participant à l'opération anti-djihadiste française Barkhane de débordements qui posent problème à Bamako. Cette affirmation a été aussitôt rejetée par l'état-major français qui assure que les légionnaires n'ont jamais été stationnés dans la capitale malienne. Le point avec Bagassi Koura.
Les légionnaires n'ont jamais été stationnés à Bamako, ils n'ont pas vocation à y aller, ils n'ont ni quartier libre, ni temps de repos. Hors des bases opérationnelles de Barkhane, situées dans le nord du Mali, a réagi le porte-parole de l'état-major français, le colonel Frédéric Barbry. Plus tôt hier, l'ambassadeur du Mali en France, Toumani Djimé Diallo, avait dénoncé devant la commission défense du Sénat français les problèmes posés par la Légion sur le sol malien en évoquant des débordements à Bamako. Il n'y a pas de sentiment anti-français au Mali, a dit le diplomate malien. Il y a eu à un moment donné un ressenti au sein de la population contre la présence militaire française, a-t-il déclaré lors d'une audition parlementaire des ambassadeurs des pays du G5 Sahel. D'abord, avec tant d'hommes et de moyens, on s'attendait à plus de résultats, moins coûteux en vie humaine, a-t-il souligné. Le président de la commission du Sénat français, Christian Cambon, lui a rétorqué « Nous prenons note, mais souhaitons réaffirmer notre solidarité envers nos forces armées ».
En Mauritanie, 7 membres présumés d'un mouvement mauritanien prônant des réformes ont été inculpés mercredi d'atteinte à l'islam et de terrorisme par la justice mauritanienne, qui a en revanche mis fin aux poursuites intentées contre deux célèbres féministes dont Amnesty International avait demandé la libération. Les 7 inculpés, dont 6 ont été placés en détention et 1 remis en liberté sous contrôle judiciaire, sont accusés d'appartenir à l'Alliance pour la refondation de l'État mauritanien, l'AREM, un mouvement créé en début d'année à Paris qui prône un divorce avec les vieilles pratiques de mauvaise gouvernance, d'injustice et d'impunité. C'est ce qu'a indiqué leur avocat Sid Ahmed Ould Bobali.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burundi, les Burundais ont de plus en plus de mal à se procurer les devises étrangères depuis la fermeture le mois dernier des bureaux de change dans leur pays. Une mesure prise par la Banque centrale burundaise pour, dit-elle, freiner la dépréciation de la monnaie nationale, le franc burundais. Conséquence, les biens importés se font rares sur les marchés locaux. pour un témoignage, Timothée Donangmaya joint Jacqueline, une habitante de Bujumbura, la capitale burundaise.
Oui, c'est vrai que les bureaux de change ont fermé depuis quelques temps. Le gouvernement a pris cette décision-là. Entre-temps, on a vu que dans certaines banques de Bujumbura, ils ont créé des guichets d'échange pour les dollars et pour l'euro.
Comment ça se passe avec les monnaies de la sous-région?
Les monnaies de la sous-région, jusqu'à présent, on n'a pas de guichet. Ça, c'est clair, on n'a pas de guichet. On présume que ça passe par le marché noir. Parce que à côté des bureaux de change à Bujumbura, il y avait aussi le marché noir. Qui existait déjà et qui faisait des échanges pour les monnaies, l'euro, le dollar et les autres monnaies comme le Chili, l'Ougandais, le Tanzanien et le Kenya. Apparemment, c'est par cette voie-là que se font les échanges.
Alors, comment les gens s'arrangent à obtenir des devises étrangères pour les importations, par exemple?
Dans les importations, on sait déjà que c'était très, très difficile dans les banques. Dans les banques, pour obtenir des dollars pour les gens qui vont faire des achats à l'étranger, pour les importateurs, les entrepreneurs, c'était déjà difficile. On a l'impression que la situation perdure jusqu'aujourd'hui. La question qui est posée, c'est justement ces échanges entre le Burundi et les pays de la sous-région à travers la monnaie qu'on échangeait entre le Frambourg et le Chili, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits commerçants qui font la navette entre le Burundi et les autres pays de la sous-région qui doivent avoir des problèmes pour pouvoir fonctionner. Quoi.
Que compte faire le gouvernement pour atténuer cette situation?
On attend, hein, on ne sait pas ce qui se passe, mais on pense qu'il y aura aussi des guichets, hein, des guichets bien connus. Pour les autres monnaies, ça peut-être rendre plus clair un peu la situation.
Jacqueline, une habitante de Bujumbura au Burundi. Afrique du Nord maintenant, en Tunisie, le Parlement tunisien a voté ce jeudi la confiance à un nouveau gouvernement de coalition formé la semaine dernière par le Premier ministre désigné Elias Fakhfakh, mettant fin ainsi à une incertitude politique de plusieurs mois qui a nuit aux efforts pour lutter contre les problèmes économiques du pays. Elias Fakhfakh a trouvé la semaine dernière un accord avec la formation islamiste modérée Ennahda, première force parlementaire, dont le candidat au poste de Premier ministre n'avait pas obtenu en janvier la confiance du Parlement. Le président tunisien Kais Saied avait prévenu qu'il prononcerait la dissolution de l'Assemblée si le nouveau gouvernement n'obtenait pas la confiance des députés. En Égypte, l'ex-président égyptien Hosni Moubarak a été enterré mercredi après une cérémonie militaire et des hommages au Caire à celui qui a dirigé le pays pendant 30 ans avant de quitter le pouvoir en 2011 sous la pression du printemps arabe. L'actuel chef de l'État, Abdel Fattah al-Sissi, a brièvement salué la famille de Moubarak et à l'issue des funérailles, l'ex-dirigeant a été inhumé dans le tombeau familial à Héliopolis, dans l'est de la capitale. La lutte contre l'épidémie de coronavirus maintenant. En République démocratique du Congo, un collectif de parents d'étudiants demande au gouvernement du président Félix Tshisekedi de rapatrier leurs enfants qui se trouvent en Chine pour les protéger contre l'épidémie de pneumonie virale. Et ici aux États-Unis, le président Donald Trump a assuré hier à la population que le risque lié à l'épidémie de coronavirus restait très faible dans le pays. Et il a désigné le vice-président Mike Pence en charge des opérations américaines de lutte contre la maladie. Jean-Roger Bion.
S'exprimant lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche aux côtés du groupe de travail sur le coronavirus, le président américain a déclaré que les autorités sanitaires du pays se préparaient à faire tout le nécessaire pour contenir cette épidémie. Il a indiqué qu'il accepterait le montant du budget spécifique alloué par le Congrès pour lutter contre le coronavirus, quel que soit ce montant, et que Washington n'envisageait pas dans l'immédiat de restrictions de voyage vers ou en provenance de pays comme la Corée du Sud ou l'Italie, qui font face à une flambée des cas de contamination. Il est probable, possible que l'épidémie se propage, cela pourrait être à un niveau très faible ou à un niveau plus large, peu importe ce qui se produit, nous sommes totalement préparés, a déclaré le président américain. Des représentants des autorités sanitaires américaines ont prévenu mercredi qu'il fallait se préparer à la confirmation de cas supplémentaires, tandis que la ville de New York a dit procéder à des dépistages et être prête à fournir jusqu'à 1200 lits d'hôpitaux si nécessaire.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de VOA
Afrique.